Le paddock RMC, Jean-Luc Roy, Nicolas Paolorsi.
Bonjour à tous, et non ce n'est pas Nico aujourd'hui, c'est Louis Gerbier, mais pas d'inquiétude, Nico est parti demander la main de Franco Colapinto. Non je rigole, il est à Cardiff pour couvrir la finale de Champions Cup de rugby demain, il sera de retour lundi, mais on a toujours une équipe de folie les amis avec notre team principal Jean-Luc Roy. Salut Jean-Luc.
Eh ben salut Louis. Salut Séraphin, parce que je dévoile déjà la suite.
Exactement, aujourd'hui un nouvel ingénieur rejoint le paddock, Séraphin. Bête et toi, Séraphin.
Hello, mais salut tout le monde et bonjour à Jean-Luc et à Louis.
T'es passionné de F1?
Absolument, passionné de F1, journaliste ici à la rédaction. Je suis juste en dessous au niveau de l'étage, mais je vous suis de très très près et très assidu, donc j'adore ce que c'est très
Et ben aujourd'hui, t'es carrément avec nous. On va parler du Grand Prix de Monaco. Je vous présente, je vous donne le sommaire tout de suite. On va évidemment parler du mythe de ce Grand Prix, son installation, son parcours, son histoire, tout ce qui le rend si unique. Ensuite, on abordera la nouveauté de l'année, c'est l'obligation de faire deux pit stops, deux arrêts au stand lors de ce Grand Prix. On verra pourquoi on a décidé de le faire. On verra ce que ça peut engendrer pour la course. On dira aussi avec Séraphin un mot du nouveau partenariat de la F1 et de Disney. Mickey arrive en F1 et puis on entrera dans le dur en se demandant si Verstappen peut coiffer les McLaren au poteau pour le championnat. On parlera aussi de Charles Leclerc évidemment, puisqu'il y a un an il gagnait à Monaco et cette année j'ai bien peur que ça soit une course compliquée pour lui. Mercedes aussi qui est toujours placé mais jamais gagnant. L'habituel point sur les Français. Et puis évidemment, on finira comme tous les warm-up avec vos pronos, les amis. Voilà, le tour de chauffe du warm-up du Grand Prix de Monaco est terminé. Éteignez les feux. On y va, les gars. Les amis, ça va être la 71e édition du Grand Prix de Monaco, un Grand Prix de 3,3 km, le plus court et le plus lent du calendrier. 78 tours, mais surtout 19 virages entre les rails de sécurité et beaucoup, beaucoup d'histoires, mais surtout une légende. Ce Grand Prix, il est mythique. Ce Grand Prix, il se passe presque plus le samedi que le dimanche. Et justement, c'est pour ça qu'on en parlera juste après. Il y aura des nouveautés cette année. Mais comment ne pas commencer ce Grand Prix sans demander à Jean-Luc quelques anecdotes sur ce GP de Monaco qui est mythique, Jean-Luc.
Bon, tu m'as dit que j'avais 2 heures, Louis.
Oui, exactement. Et 3, si tu veux.
Ouais. Bon, écoute, comment en sortir quelques-unes? Mais évidemment, je ne peux pas commencer sans parler d'Ayrton Senna, évidemment. Ayrton Senna, c'est, comme vous le savez, c'est la légende absolue. Hein. C'est lui qui a signé le plus de pole position dans les rues de Monaco. Il en a signé 5. La première, c'était en 85, l'année où il arrivait chez Lotus. Et puis, des victoires, il en a signé 6. Et la première, c'est seulement 2 ans plus tard, en 87, toujours avec Lotus, avant qu'il passe chez McLaren. Alors, Ayrton, il a éclaté, j'allais dire, au grand jour, en tout cas pour ceux qui ne le connaissaient pas encore. C'était en 84, donc c'était l'année avant sa pole. Il était parti 13e sur la grille, et puis il s'est mis à pleuvoir le jour du Grand Prix. Évidemment, ça a brouillé comme toujours les pistes, et comme... tu le sais Louis, et je le répète tout le temps, et ben, dès qu'il y a de la pluie, dès qu'il y a une perte d'adhérence, c'est le pilotage qui reprend le dessus, comme par hasard. Et donc les pilotes qui n'ont pas la machine pour briller en temps normal peuvent mettre leur talent en évidence, et ça a été le cas d'Ayrton, qui a fait un véritable festival. Hein. Déjà à la fin du premier tour, il était 9e, pour te dire. Ouais. Et puis il s'est retrouvé ensuite en 2e position derrière Alain Prost, qui était en tête hein, à l'époque, et il s'est mis à remonter sur Alain à coup d'une seconde par tour, ce qui est absolument phénoménal, quoi. On est dans un autre monde. Et la pluie a redoublé de violence. Et bon, à ce moment-là, le directeur de course, qui était Jackie X, hein, d'ailleurs, Jackie qui a été vice-champion du monde de Formule 1, il faut le rappeler, avec également ses 6 victoires au Mans. Et ses victoires au Dakar, eh ben, il a brandi le drapeau à ce moment-là, parce qu'il a estimé, d'ailleurs Alain faisait des grands gestes en passant devant la ligne d'arrivée depuis 2 tours, en disant on ne peut pas continuer. Et donc Ayrton a été extrêmement frustré, puisqu'il termine ce Grand Prix 2e, on prend évidemment le classement du tour précédent, et à ce moment-là il n'avait pas encore passé Alain, et lui croyait avoir gagné. Donc voilà, sa légende s'est bâtie là, si tu veux, et après il a tout fait. Bon, après il y a eu ce tour magique évidemment de 88, où près de 2 ans après, il a dit lui-même « j'étais dans un autre monde », parce qu'en fait, il a dépassé ses limites, il a collé 1 seconde et demie à Alain Prost, qui était deuxième. C'est ça qui est fabuleux.
Ouais,
quoi.
Quand tu colles une seconde et demie à Alain Prost, ça place un homme.
Ah ben, t'as raison. Ben, si tu veux, aujourd'hui, là, je prends les temps de la FP1, t'as 18 pilotes en une seconde et demie. C'est pour dire. Bon, voilà. J'ai dit que je ne ferais pas 3 heures. Je m'arrête là, mais j'en ai plein d'autres. Hein. J'en ai plein d'autres.
On y reviendra. On va t'en demander d'autres parce que c'est quand même assez cool d'entendre ce genre d'anecdote. Pour toi, Séraphin, Monaco, c'est quoi ? Qu'est-ce que ça t'évoque ?
Bah déjà, il a dit Jean-Luc, je pense qu'il y a tellement de moments historiques dans ce sport que... Heureusement que ce Grand Prix reste au calendrier parce que on ne peut pas, et même tous les pilotes le disent, c'est hyper intéressant pour eux. Il se passe une atmosphère extrêmement particulière. Les pilotes habitent d'ailleurs maintenant, pour la grande majorité.
On peut dire que c'est le Grand Prix à domicile.
Ils sont chez eux.
Exactement, ils sont à domicile, ils sont bien. Ouais. Et il est tellement particulier par son environnement que c'est incroyable. Et même si aujourd'hui, on a des courses très différentes de l'époque, et je pense que Jean-Luc, il l'a rappelé, il faut que ça reste évidemment. Et c'est toujours des moments qui sont intéressants et on va en parler, mais évidemment, le samedi où on passe presque un meilleur moment que le dimanche, en tout cas sur les dernières éditions, c'était le cas.
Oui, non, clairement. Une petite question, tiens, juste. Savez-vous l'écurie quelle est l'écurie la plus titrée à Monaco ?
Ah ouais, ça c'est une très très bonne question. On a tendance à dire Ferrari, évidemment, parce que c'est les plus anciens.
On aurait tendance,
mais... Je me lance, pas McLaren.
Et voilà, c'est pour ça que c'est le team principal du paddock. C'est parce qu'il a toujours raison. Exactement, le nombre de victoires de McLaren en principauté, quand même 15 victoires. McLaren qui est quand même l'écurie du moment, l'écurie de la saison, et qui doit un peu... réagir, puisque là, la semaine dernière, ils se sont quand même bien fait coiffer par Max Verstappen. Max Verstappen qui aujourd'hui a une voiture qui n'est pas à la hauteur de celle de McLaren. Et quand on sait que parfois la McLaren est plus une voiture du dimanche que du samedi, ça peut s'annoncer compliqué, Jean-Luc, pour McLaren ce week-end.
Ah ben très clairement, de toute façon, là, il est parti à l'abordage, hein, Max, et tu sais, la pression, je parlais d'Ayrton tout à l'heure, ben beaucoup de pilotes, pour ne pas dire tous, quand ils le voyaient remonter, quand ils voyaient dans leur rétro le museau de la McLaren, c'était sa période, et puis le casque jaune, et ça y est, ils étaient fascinés. Et ben écoute, maintenant, quand on voit arriver Max, c'est quasiment la même chose, hein. C'est ça qui est génial, et c'est pour ça, je vais en remettre une louche, que je déteste que les pilotes changent de casque, parce que comme on les voit plus, de toute façon, si on voit plus un morceau de casque qu'on identifie. Là, d'ailleurs, j'ai pas très bien compris pourquoi Charles nous a sorti un casque blanc. Enfin bon, peu importe. c'est un détail.
La tenue. On rappelle aux auditeurs la tenue blanche et bleue, évidemment, de ce fameux sponsor qui, je pense, on va y avoir droit un peu trop souvent, je pense, à des tenues en rapport avec le sponsor, qui a dû payer très très cher quand même, parce qu'ils pourrissent la voiture, ils pourrissent les tenues, ils ont le sponsor titre. Ça a quand même dû coûter une sacrée blinde, cette affaire.
Ils ont tous les droits, y compris celui de rendre la Ferrari immonde.
Ouais, ce qui est pourtant pas une mince affaire.
Ah, c'est du boulot, hein. C'était à Miami où c'était vraiment hideux à gerber. Ah ouais, bon, ils vont faire pire, hein, on peut leur faire confiance. Bon, on en revient à l'essentiel. Max, oui, bien sûr, moi, j'y crois, mais j'y crois depuis toujours, c'est très prétentieux, mais je pense qu'il a quelque chose de plus que les autres pour le moment. Et comme sa monoplace a l'air d'avoir évolué dans le bon sens, alors bien sûr, tout le monde est très prudent. Charles le premier, qui l'avait emporté l'an dernier, hein, premier pilote monégasque à s'imposer, évidemment, dans les rues de Monaco, après une course chiante, il faut le dire, mais bon, il avait fait la pole, il était devant, personne ne l'a revu, et on va reparler tout à l'heure des deux arrêts obligatoires. Donc je pense que Max, ça va se jouer évidemment demain, samedi, et il va évidemment tout faire pour décrocher la pole, et je peux vous dire que s'il décroche la pole, les autres ont du souci à se faire. Voilà,
Il est clairement favori, je pense, sur ce week-end.
Enfin, dis-nous. Ouais.
Il est clairement favori, Max, on l'a vu en début de saison, déjà en termes de pole position et de différence qui va aller chercher. Moi, je le vois vraiment sur les garçons de qualification demain, même si c'est très serré, on le voit depuis le début de la saison, on est à moins d'un dixième entre la P1 et la P2. Mais effectivement, je pense que
si je te donne un billet ce soir et que tu dois parier, tu mets Calif Verstappen.
Verstappen, ouais, je le vois vraiment faire la différence.
La pole.
Et aller chercher, on voit souvent les potes qui passent, c'est incroyable ces images au niveau des pneus où ils viennent frôler, caresser les barrières.
Cette fameuse caméra du S de la piscine qu'on voit chaque année, qu'on pourrait regarder, nous, les fans, les geeks de F1, qu'on pourrait regarder en boucle, quoi. À chaque fois, c'est hypnotisant même. Mais la grande nouvelle de cette année, quand même, justement, et Séraphin commençait à en parler en disant que les dernières éditions avaient été assez similaires et pas hyper passionnantes, ce qui est toujours un peu le problème, évidemment, par rapport à la caractéristique du circuit, c'est donc cette année la mise en place de l'obligation de rentrer au stand, non pas une fois comme d'habitude, mais deux fois. Ça va peut-être permettre de créer un peu plus de choses, mais est-ce que c'est vraiment une chose qui va changer le Grand Prix ou c'est un peu gadget?
Moi, j'irais plus loin. Alors, pour moi, la règle, c'est surtout d'obliger les pilotes à effectuer trois types de pneus. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait trois types de pneus sur la voiture différente. Tu l'as dit, ça peut être deux arrêts au stand. Sauf qu'il y a un autre élément, c'est les arrêts au stand, ça peut être également sous safety car ou drapeau rouge. Mmh. Et on l'a vu, par exemple, tu as parlé l'année dernière, c'est ce qui s'était passé. Il y avait eu le premier virage avec l'accident et ça avait engendré un drapeau rouge, ce qui a fait que les pilotes se sont arrêtés au stand et on avait eu une course moins intéressante. Ce qui va se passer, ça va être finalement comment la course va se dérouler, parce que je pense que si on a une situation, on a une safety car ou on a un arrêt, en tout cas de la course, ça va aider les pilotes pour s'arrêter et pour changer de type de pneu. Donc, il va falloir voir comment ça se passe. Et est-ce que c'est la bonne solution ou pas? J'ai l'impression qu'ils ont un peu fait ça,
pour faire quelque chose,
de dire faut qu'on trouve une façon de rendre la course vraiment intéressante, même si on le sait que fondamentalement le problème c'est pas le circuit mais c'est ces monoplaces évidemment très larges dans les rues étroites de Monaco.
Évidemment, on rappelle que la taille des monoplaces a doublé voire plus en une trentaine d'années et que déjà il y a 30 ans c'était pas simple de doubler à Monaco, donc aujourd'hui c'est encore plus compliqué. Toi Jean-Luc, de ton côté, cette nouvelle règle, tu la vois comment? T'as de gros espoirs dessus ou tu penses que ça va être un pétard mouillé?
Écoute, je vais me ranger à l'avis des pilotes. Hein. J'ai lu tout ce qu'ils ont tous dit, à commencer par Verstappen, Charles, enfin, etc. Personne ne peut savoir, tu vois. Évidemment que ça introduit un élément nouveau, c'est une évidence. Séraphin vient de l'évoquer. Est-ce que ça va jouer vraiment le rôle qu'on en attend, c'est-à-dire relancer le Grand Prix s'il est ennuyeux, pour rester poli, pour ne pas prendre 10 000 $ d'amende par Amin Mohamed. Donc, je ne sais pas. Personne ne peut savoir pour le moment. Alors après, c'est une mesure effectivement à l'emporte-pièce. Pourquoi pas 3, pourquoi pas 4, pourquoi pas 5, puisque Mickey arrive, donc on peut prendre des décisions de Mickey. Hein. Non, mais vous me voyez venir. Pourquoi pas changer les règles? Mais le vrai problème, et tu viens de l'évoquer évidemment, Louis, c'est que les monoplaces sont devenues des camions. Là, je le dis, ça avait coûté sa place à Alain Prost chez Ferrari, mais ce sont des camions. Tous les pilotes s'en plaignent. Elles sont énormes, elles sont pataudes, elles sont lourdes. Alors évidemment, ils en tirent le meilleur, c'est leur boulot, ils sont là pour ça. Mais bon, c'est pas marrant. La vraie décision est très timidement, oulala, très 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 timidement, on commence l'an prochain, on se dit qu'on a atteint une limite insupportable là. Quand tu penses que le pilote à bord avec le plein de carburant, c'est plus de 900 kilos au départ du Grand Prix, 900 kilos, mais on est en plein délire. Donc la vraie décision, elle est là. Alors on peut effectivement coller quelques cataplasmes pour voir si ça fait du bien sur la jambe de bois, mais bon, pour moi c'est une micro-décision, on va voir si ça se traduit ponctuellement ou pas, cette fois-ci ou pas, la fois prochaine ou pas, enfin tu vois ce que je veux dire.
Ouais.
De toute façon là c'est... Ouais.
T'es un peu sur la ligne, la lignée d'Esteban Ocon qui est comme ça, qui est dubitatif. Il trouve ça plutôt bien qu'on essaye, qu'on tente des choses, mais il se dit attendez, calmons-nous, prudence. Moi je vois pas une course folle à Monaco juste grâce à cette règle et je pense qu'on est tous un peu d'accord là-dessus. Mais bon, pourquoi pas, faut tenter des choses. Moi j'ai une idée en préparant ce podcast, c'est complètement irréalisable, mais ça me fait marrer, il faudrait des voitures spéciales Monaco, tu vois, une espèce de mulet qui sort qu'à Monaco.
Déjà spéciales, t'as vu les appuis qu'ils ont.
Oui, mais tu vois, carrément sur la taille, le châssis, tu vois, une deuxième voiture. Bon là, je pense que ça, on n'est pas prêt de voir ça tout de suite. Bon, il y a une autre nouveauté. Tu en parlais juste avant, Jean-Luc. C'est donc l'arrivée de Mickey en F1. Séraphin, ce partenariat donc entre Disney et la Formule 1. Tu me le disais juste avant. C'est encore une fois une preuve de l'avancée dans la F1 spectacle.
Tout à fait, on l'a vu en début de semaine, donc la Formule 1 et Disney qui ont annoncé une nouvelle collaboration, donc c'est à partir de 2026 que ça va entrer en vigueur, et l'idée c'est de, évidemment sans doute, c'est d'offrir plus d'expérience pour les pilotes, et surtout entre le monde extérieur en fait, c'est encore une fois, on le voit depuis plusieurs années, mais c'est nous d'extérieur, quand on observe cette situation, c'est malheureux, j'ai envie de dire, de voir qu'on arrive à ce point-là, parce que j'ai du mal à comprendre, effectivement, Disney, j'ai rien contre eux, évidemment, mais j'ai du mal à savoir l'idée qu'ils veulent finir derrière, à part, évidemment, s'intéresser des personnes qui sont moins alliées,
moins geek, ouais.
de la Formule 1, et peut-être plus une jeune génération, mais encore une fois, ça rentre dans cette idée depuis plusieurs années de ouvrir les vannes, le business de la Formule 1 et de Disney. Alors qu'est-ce qu'on va voir? Je sais pas. J'ai lu qu'il y avait Las Vegas qui avait été apparemment souligné. On pourrait avoir des choses particulières pour ce Grand Prix avec ça. Mais c'est vrai que c'est je trouve ça dommage de voir qu'on a un partenariat comme ça. Qu'est-ce que ça va devenir dans les
prochaines années? Ouais. Mais bon, c'est dans cette lignée. On l'a vu il y a quelques semaines, la parade avec les voitures Lego. On sent que c'est une volonté. Moi, je ne mets pas ça sur le même plan parce que, pour le coup, les voitures Lego, j'ai trouvé ça très sympa.
Oui.
Mais on voit que c'est vraiment une volonté d'aller vers le spectacle. Et j'en connais un qui doit commencer à trouver ça un peu agaçant, Jean-Luc, n'est-ce pas?
Écoute, c'est du grand n'importe quoi, mais c'est du fric, hein. Pas n'importe quoi. Enfin, c'est vraiment n'importe quoi, quoi. Là, je te dis, on avait déjà des circuits de Mickey, hein. Je peux en citer pas mal. C'est facile à trouver. Bah, maintenant, on va avoir le vrai Mickey. C'est très bien. Écoute, je vais commencer à tailler avant de l'avoir vu, hein. Vous me voyez venir. Le film, alors, où tout le monde, 16 bodies, c'est formidable. Il y a eu la projection à Monaco. Les pilotes sont sortis. Mais les gars, sortez un peu de votre costard. Moi, il y en a deux qui sont pas allés comme par hasard. Vous en connaissez au moins, je crois.
Je crois qu'il avait autre chose à faire.
Bah, il avait autre chose de plus important à faire, et comme il a bien fait. Alors je sais pas, il est peut-être très sympa le film, mais tout ça, c'est dans la même démarche, on va dire, de popularisation, pour moi, dans le mauvais sens du terme, parce que bien sûr qu'on peut faire n'importe quoi avec la F1, on peut la mettre dans. C'est un sport tellement qui nous passionne, c'est un sport technologique, c'est un sport de risque. Pour moi, il faut pas tout mélanger.
C'est un sport de risque. Je pense que tu l'as bien rappelé, Jean-Luc. Et moi, quand je vois l'image de Disney, alors, qui peut plaire aux grands et aux plus petits, mais déjà le public, le personnage de Mickey, j'ai du mal à le voir effectivement collé avec ce qui est aujourd'hui la sport mécanique et la Formule 1.
Bah, il a une grosse tête et des grandes oreilles. Il va pas rentrer dans le casque. Hein.
ce serait qui le pilote avec une grosse tête et des grandes oreilles en ce moment dans le paddock?
Là, c'est comme les circuits. J'ai pas cité. Non. Ah,
des pilotes avec des grosses têtes, on en connaît plein. Après les grandes oreilles. Non, mais surtout les amis, ce qui me fascine aussi à Monaco, pour rester un petit peu, ce qu'on va dire, en périphérie de la course pure, c'est quand même que c'est le caractère unique. La principauté, c'est un rocher, c'est tout petit, et chaque année on vient y créer un grand prix de toutes pièces ou presque. Il faut savoir quand même que ça commence le 3 mars. Le 3 mars on commence à Monaco à mettre les premiers tubulaires, les premières tribunes, et on va enlever la dernière barre de fer le 22 juin. Donc c'est à dire que en fait, c'est le seul Grand Prix qui est autant lié à sa ville, à son endroit. Et c'est un tout, en fait. C'est-à-dire que la fame de Monaco à l'international, elle est due aussi à son Grand Prix et vice-versa, quoi. C'est vraiment un couple depuis des années. Et c'est assez fascinant, je trouve, de se dire que tout est au diapason du Grand Prix pendant 3 mois, quoi. Il y a des spécificités. Le Grand Prix est resurfacé sur un tiers chaque année. Tout est fait pour que ça soit fait pendant la nuit, pour pas gêner non plus la vie monégasque.
T'as raison, il y a encore la circulation, d'ailleurs, on le rappelle.
Il y a la circulation, encore aujourd'hui, là, entre les séances, on rouvre certaines parties. Enfin, ça, on connaît ça nulle part ailleurs, et d'ailleurs, aujourd'hui, ça serait presque impossible, même les Grands Prix de ville actuels, c'est pas du tout cette philosophie. Ça, toi, Jean-Luc, tu l'as peut-être plus vécu que nous, cette effervescence autour de Monaco, c'est que c'est vraiment unique, non?
Ah bah tout à fait, bah, ça dure tu vois 4 mois, tu as
Ouais.
bien résumé, hein. Il faut 3 bons mois pour installer et 1 mois pour désinstaller. Effectivement, ça perturbe bien sûr la vie de la principauté, mais je crois que bon, ça fait
C'est
tellement partie
gagnant-gagnant.
du décor. Bah,
Ouais.
bien sûr, tous les habitants acceptent ça bien volontiers. Bon, maintenant on a Singapour, on a Las Vegas, enfin on va pas commencer à citer tous les circuits où on crée artificiellement effectivement et on implante à l'intérieur. Monaco, oui, depuis 1950, hein, depuis le premier Grand Prix, qui avait d'ailleurs été gagné par Juan Manuel Fangio, il faut le rappeler. Alors, est-ce qu'un Argentin va gagner le Grand Prix cette année? Je vous laisse je vous laisse décider. Ça, c'est pour l'anecdote et pour rigoler un peu. Non, mais écoute, c'est un endroit mythique. Bah, effectivement, on peut citer enfin Sainte-Dévote, bien sûr, où on dit toujours
Virage,
que les pilotes, ceux qui sont croyants, vont faire une petite prière pour au moins déjà passer le virage au premier tour. C'est déjà pas évident. Après, la montée magnifique de Beau Rivage. Après, on a le casino. Après, on a la descente vers Mirabeau, et puis après, on a le fameux épingle que je vais continuer à appeler du Louvre, alors parce que cet
ouais.
hôtel il a changé de nom 12 000 fois, mais
Oui, on
c'est
sait
pas
même
grave.
plus le grand hôtel, le Fairmont, on sait plus comment l'appeler, donc je suis
Ouais,
d'accord avec toi, on
le
l'appelle
Louvre,
toujours
comme
le
ça on est
Louvre à
tranquille.
l'ancienne.
Et puis après, on a le portier, alors le fameux portier où je parlais d'Ayrton tout à l'heure, bah, avait été présomptueux, hein, où effectivement il était en
Ouais.
tête du Grand Prix, il avait plus de 50 secondes d'avance sur Alain Prost avec la McLaren, seulement voilà, Alain. Malin et intelligent avait battu le record du tour et Ayrton voulait tout. Il voulait la pole, il voulait la victoire, et il a pêché par orgueil. Alors, c'est vrai que Ron Dennis, entre-temps, tu voulais des anecdotes, en voilà une autre, lui avait dit, mais vas-y doucement, c'est bon, ça y est, t'es largement devant. Et Ayrton l'avait un petit peu écouté, il avait un peu levé le pied, puis après il s'était remis. Et ça, c'est très mauvais pour un pilote, comme tu
Ouais.
sais, hein.
Ah
Dans
oui,
la
si
tête,
tu
quand
sors de
t'es.
ton ouais.
Ah bah, tu sors de ta bulle, tu sors de ton cocon, et voilà. Et après, il était rentré d'ailleurs à son hôtel, chez lui, sans même repasser par la case de stand. Et c'est Joe Ramirez, tu sais, qui était un personnage important de l'équipe McLaren à l'époque, qui avait réussi à le joindre au téléphone parce qu'il ne l'avait pas revu. Hein.
Ah ouais,
Et il avait dit, je suis le pilote le plus stupide de la Terre, mais je m'en servirai. Et il n'avait plus jamais refait cette erreur-là, évidemment.
Ah on veut bien croire que quand tu as Monaco dans les mains de te planter à l'entrée du tunnel alors que tu as 50 secondes d'avance,
Eh
tu
ben
dois
ouais.
très très mal dormir. On se rappelle aussi de la fameuse course de Daniel Ricciardo il y a quelques années qui avait d'ailleurs été un peu le main event de la première saison sur Netflix de cette fameuse série Drive to Survive où justement finalement c'est son équipe qui lui foire son Monaco
Ah,
puisque
complètement.
c'est un pit
Ils n'avaient
stop,
pas les pneus.
ils n'avaient pas les pneus et bref. Et heureusement qu'il l'a regagné quelques années après, parce que sinon il y avait moyen de ne plus jamais réussir à trouver le sommeil. Pour finir sur le circuit, puisqu'on est très corpo ici, je vous invite tous à retrouver en replay sur les plateformes d'RMC et BFM le documentaire RMC Découverte sur justement toute l'installation du Grand Prix de Monaco. C'est très intéressant. On suit tous les ouvriers hyper qualifiés qui chaque année font ça parce que tous jouent au millimètre et qui s'agirait pas de faire écrouler une tribune en pleine principauté. Donc voilà, on les salue aussi, on les félicite. Les autres personnes qui sont très qualifiées à Monaco et bien meilleures qu'ailleurs, ce sont les commissaires,
Tout
Jean-Luc,
à fait.
qui ont
Ouais.
une formation assez particulière, assez drastique à
Tout à
Monaco,
fait.
qui permet justement, Séraphin, c'est sûrement quelque chose qui t'intéresse, d'évacuer des voitures et de garder le circuit en sécurité. Et ils ont un professionnalisme, une rapidité qui est vraiment unique en F1 aussi.
T'as raison, ils assurent la sécurité à la fois des pilotes et des spectateurs qui sont autour. Et je pense que encore une fois, il faut continuer de leur tirer notre chapeau à ces gens-là parce qu'ils sont bénévoles. C'est important de le rappeler. Et oui, ils ont une formation extrêmement poussée et une capacité. On voit, il y a des grues installées un peu partout, donc une rapidité aussi évacuer les voitures. On se souvient notamment la semaine dernière à Imola. On va y revenir, hein, mais on
Ça
a
a
vu
pris un petit peu de
ça
temps.
Oula,
a
oula.
pris du temps.
Il n'y avait pas les commissaires de Monaco,
Alors, non, non, clairement.
voilà. Mais c'est vrai qu'ici, on a toujours. Toujours des évacuations qui se font, qui sont bien et au péril de leur vie. On en souvient quand même de moments tragiques qui se sont passés. Le circuit qui s'est énormément amélioré. Donc, bien sûr qu'il faut leur rendre hommage à ces gens.
Allez, on va retourner un peu dans le dur, au cœur de la course, puisqu'on parlait des légendes monégasques, bah on va parler de peut-être la future légende monégasque, de Charles Leclerc. Charles, l'année dernière, après une malédiction presque presque, enfin complètement incroyable, où il avait quasiment jamais réussi à finir le Grand Prix de Monaco, lui le monégasque, que ça soit en F2 comme en Formule 1. Et bien l'année dernière, enfin il est allé la chercher, il est monté dans la tribune princière, il a soulevé le circuit remis par le prince, et ça, Jean-Luc, c'était un grand moment, sauf que cette année il y a peu de chances qu'il y ait une récidive.
Alors oui et non, tu me vois venir, parce qu'évidemment il a fait le meilleur temps, il a fait le meilleur temps de la FP1, il faut quand même le dire, après s'être accroché dans les toutes premières secondes avec Stroll, donc on l'évoquait rapidement tout à l'heure, qui n'avait pas entendu que son ingénieur l'avait prévenu, que Charles était déjà dans un tour rapide. Alors attention, je mets ça avec mesure, puisqu'on est encore en 1.11.964, on est à 1.07 de sa pole de l'an dernier.
Ouais.
Donc, vous savez que la piste évidemment s'améliore, pour toutes les raisons que vous avez évoquées, puisqu'évidemment évidemment, la gomme se dépose, enfin, etc. Puis les pilotes, évidemment, ne sont pas à fond absolu. Là, ils en ont.
Oui, hein, ont réserve, serais un peu fou d'être à fond un vendredi à Monaco, quoi. Parce que ça pourrait vite te coûter cher pour ton week-end.
Et puis après, c'est ça, tu le trimbales tout le week-end.
Ouais.
Là, le handicap, Stroll, par exemple, qui n'a pas roulé, parce qu'il y avait des pièces à changer à l'arrière de sa monoplace, notamment la boîte de vitesse, enfin, le demi-arbre, etc. Donc, là, ça, il va le trimballer tout le week-end, de toute façon, parce qu'il faut se mettre dans le rythme. Et puis, c'est pareil, c'est un circuit, c'est un peu comme le désert. Tu sais, il t'accepte, il faut être très humble, il faut venir. Et donc Charles, tu l'évoquais, premier monégasque à l'emporter ici, Anthony Nogues qui a un virage à son nom, peut-être un jour Charles, on ne sait jamais, aura un virage à son nom s'il l'emporte à plusieurs reprises. Et puis tu évoquais aussi le prince Albert, que j'ai... Je le dis tout le temps, mais c'est vrai, la chance de connaître très très bien depuis les Dakar, et qui est un vrai sportif, et qui est quelqu'un qui adore absolument la Formule 1, et qui était fou de joie, on l'a vu,
oui,
on
a vu
comme
une
un
émotion,
gamin, dans le bon sens.
On se souvient génial, de l'émotion qu'il a eue, presque paternelle, enfin vraiment, c'était très, très, très sympa comme image.
C'est génial.
Cette première victoire de Charles. Alors, Jean-Luc se dit, et pourquoi pas, Séraphin, toi, tu le sentirais comment le week-end de Charles, là, après juste les FP1.
C'est vrai que pourquoi pas, dans le sens où Charles Leclerc, c'est comme lui qui met les trois dernières pole positions, pas en 2022, donc les trois sur quatre dernières pole positions quand même. Donc, depuis pas mal d'années, il a quand même une façon d'aborder la qualification à Monaco, je pense, qui est vraiment particulière. Et il peut faire la différence, notamment avec une voiture qui, cette année, évidemment, ne lui permettra pas d'aller chercher le haut du classement. On le voit depuis le début sur la qualification. Mais c'est vrai que Charles Leclerc, il l'a dit, Jean-Luc, il a eu ce petit accrochage au début. Pour l'instant, on ne va pas te faire trop de pronostics, on n'a vu qu'une séance de C libre. Mais il y a eu ce petit accrochage. On l'a vu aussi être spin à la radio. Il y avait un manque d'équilibre au niveau de la voiture. Mais il réussit quand même en soft à, pour l'instant, boucler le meilleur temps en C libre 1. Je pense qu'il va être plutôt bien, j'espère, en tout cas sur le reste des essais. Je pense qu'il peut faire une des meilleures qualifications depuis le début de la saison, en tout cas de ce qu'on a vu. C'est pas impossible. À quel niveau, on ne sait pas. Et aussi, comment vont se passer les pneus, parce qu'on ne l'avait pas évoqué, mais on a quand même le C6 qui a été introduit et qui est encore présent du coup sur ce Grand Prix.
Qui tient au moins un tour, c'est déjà pas mal.
Explique-nous le C6, sa particularité par rapport aux autres pneus.
Donc, comme tu l'as dit, ouais, c'est ça, c'est que c'est un pneu qui est encore plus tendre. On a C4, C5, C6. Un nouveau pneumatique a été introduit depuis cette année par Pirelli, qu'on a vu évidemment la semaine dernière à Imola, et on a vu que c'était vraiment compliqué de le tenir sur un tour. La preuve, les pilotes se sont qualifiés en médium, on se souvient des Aston Martin.
Exactement.
Notamment, j'ai en tête. Et donc, il va falloir voir comment ça va se passer, justement, comment ces pneus vont réagir. Sur cette séance, on a vu les pilotes aussi avec pas mal de pneus différents de façon globale. Ils vont les tester, ils vont monter crescendo, tout simplement eux trouver, il a dit Jean-Luc, un peu les limites et être à l'aise au niveau du circuit. Donc on va bien voir s'ils parviennent en tout cas à se rapprocher du temps. Charles Leclerc qui avait fait l'année dernière une 10-2, donc on va voir, mais je pense que ça peut être intéressant de voir effectivement Charles Leclerc sur ce week-end face aux autres écuries.
Vous êtes plus optimiste que moi. Moi, ce qui me fait peur pour les deux pilotes Ferrari, je vous le dis, c'est que je les sens frustrés et que je me dis s'il y a vraiment une chose qu'il ne faut pas avoir quand tu vas à Monaco, c'est la frustration, tu vois, parce que t'as vite fait d'en faire trop et de finir dans un rail. Mais donc Charles, on va voir ce qui va donner. Il y en a d'autres dont j'ai envie de parler, les amis, c'est les McLaren, parce que les McLaren, depuis ce début d'année, c'est clairement un peu le best of the rest. Si on enlève j'ai dit McLaren, je voulais dire Mercedes.
Oui, Mercedes.
Ouais, c'est ça.
Ah, Mercedes. Ouais.
Non, je sentais dans le silence que j'avais dit une boulette. non, Mercedes. Mercedes qui, depuis le début de la saison, est toujours là, toujours placé, jamais gagnant. Comment vous voyez ce début de saison de Mercedes? Comment Jean-Luc, toi, tu vois l'avenir et particulièrement ce week-end-là pour les flèches d'argent?
Alors écoute, ce qui est terrible avec les Mercedes, c'est qu'effectivement, eux ne savent pas. Les pilotes te disent à chaque fois le meilleur côtoie le pire, mais vraiment, et c'est de manière alternative et sans qu'eux-mêmes puissent prévoir véritablement quel va être le rendement de leur monoplace. Alors là, je me réfère autant à ce qu'on a seulement pour le moment. On sait que la FP2 va démarrer très rapidement. Là, on aura un autre élément, mais Russell est pour le moment 6e. Bon, à 5 dixièmes, ça ne veut pas dire grand-chose. Quant à Antonelli, il apprend doucement, il a bien raison. Il est 11e à 8 dixièmes. C'est difficile de savoir pour le moment. J'y crois pas pour la pole, pour être clair là, si tu me demandes un avis. Non, j'y crois pas pour la pole, pour plusieurs raisons. D'abord parce que la meilleure perf en qualif de Russell, c'était en Chine, hein, où il fait 2e. Bon, je les sens un peu en dedans. Après, Russell effectivement fait 3. Alors, on rappelle qu'Antonelli avait été brillantissime, hein, notamment à Miami, mais c'est un circuit complètement différent. Donc non, je les sens bien dans le coup, et ils le sont toujours, hein, ils sont solides, mais je ne les vois pas pour la pole, donc je ne sais même pas si j'en vois un sur le podium, tu vois. En revanche, parce qu'il y aura déjà du monde, hein, à mon avis, il y a que 3 places, hein, comme je te le rappelle.
C'est tellement serré aussi, les écarts sont tellement serrés qu'il suffit d'un bon réglage au niveau de la voiture, la bonne température au niveau des pneus, de les faire fonctionner, et ça, on l'a vu depuis le début de la saison, c'est extrêmement serré en fait en Q3, donc moi je ne serais pas surpris de voir peut-être une Williams par exemple titiller le top 3. Ou d'autres écuries, c'est ça aussi qui fait la magie finalement de la qualification Monaco. Il faut qu'on soit un peu surpris.
Le facteur pilote, si tu veux, est plus important. Si tu veux, je compare toujours avec la moto, tu sais, où le rôle du pilote à moto est évidemment beaucoup plus important qu'il ne l'est en Formule 1, on le sait, et c'est même énorme la différence. Là, sur un circuit comme Monaco, qui est un circuit atypique, un circuit, une nouvelle fois, pour hommes courageux ou femmes, s'il y en avait, mais bon, pour personnes courageuses, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est évident que le facteur pilote et la manière que le pilote a de se surpasser et de se mettre dans un autre contexte, comme tu l'as rappelé, Séraphin, comme le fait Charles, hein, il a été récompensé une seule fois, mais c'est un facteur important, et comme le fait Max. Et bon, pour le moment, je reste un peu sur la réserve pour ce qui concerne même Piastri. Pourtant, il a fait 3 pôles, hein, et il est encore un poil tendre. On va voir s'il se sent bien. Voilà, ça va être aussi bête que ça, hein.
Et du coup, à l'inverse, je passe du coq à l'âne, mais Hamilton, on n'en a pas parlé. Hamilton qui, lui, à l'inverse, était... Et lui, l'expérience, il en a accumulé un tout petit peu, en fait. Donc, est-ce qu'il ne pourrait pas, justement, enfin tirer son épingle du jeu et confirmer un peu sa troisième place en sprint il y a quelques semaines et sa quatrième place du week-end? Toi, Séraphin, c'est quelque chose que tu pourrais envisager, ou tu te dis non, Lewis, ça ne sera pas ce week-end, rien du tout?
Non, Lewis, il ne faut pas l'oublier, évidemment. Il s'est imposé 3 fois, hein, sur ce circuit. Et je pense que Jean-Luc il l'a dit, c'est parti de ces pilotes aussi qui peuvent faire la différence. Je pense que face à Charles Leclerc, je pense que Charles peut quand même être plus à l'aise, étant donné qu'il connaît mieux la monoplace. Mais non, il faut pas l'oublier. J'espère qu'il fera un bon résultat. Mais je vais pas trop m'avancer non plus.
Non, mais je comprends. Jean-Luc?
Ouais, non, j'allais juste rajouter, Séraphin l'a dit, c'est la référence chez Ferrari, ça reste Charles, hein, c'est évident, malgré le résultat d'Imola, pour les raisons d'arrêt, on l'a évoqué, ça n'enlève rien au talent de Lewis, hein, naturellement, partie 12, fini 4, bon, mais arrêté pile au bon moment, avec ce qu'il fallait, 30e tour, 47e tour, ce qui n'a pas été le cas de Charles, bon, la référence c'est Charles, donc s'il y en a un chez Ferrari qui peut être devant, sur le podium ou mieux, c'est évidemment Charles. Maintenant, peut-être que je vais être ridicule dans 20 24 heures. Mais
non, t'inquiète, je suis habitué. Hein. Moi, je donne jamais un prono correct.
Non, sincèrement, j'y crois pas. Puis on l'a rappelé aussi. Lewis, il n'a quand même que deux pôles avec le nombre de participations qu'il a depuis 2007. Hein. Et j'allais dire, il n'a que trois victoires. C'est pas beaucoup non plus par rapport au nombre de. J'ose le dire, hein, ouais. Au nombre de participations. C'est pas beaucoup. Alors ouais, qu'il ouais. avait une monoplace qui dominait ça, outrageusement pendant autant de saisons. Ouais. Bon, il a été meilleur sur plein d'autres circuits que celui-là. Voilà, c'est pas. Enfin, il est bien. Attends, combien de pilotes signeraient pour avoir ce palmarès-là, hein, de ouais. deux pôles et trois victoires à Monaco. J'en connais au moins 370 qui signeraient les deux mains. Mais bon.
Non, c'est clair. Et toi, Séraphin, tu nous parlais juste avant de Williams. C'est vrai que finalement, quand on voit la solidité du week-end à Imola de Williams, on rappelle donc top 10 Q3 pour les deux et les deux voitures dans les points à la fin du Grand Prix. Un début de saison, on en parlait dans des épisodes précédents, qui montre une solidité, qui montre une régularité, une remise à niveau, si on peut dire ça comme ça. Toi, du coup, ça te laisse penser que demain, il peut se passer des choses avec Albon et Carlos Sainz.
Alors, ça conforte, oui, parce que depuis le début de la saison, et on l'a vu là, au fur et à mesure des Grands Prix, qu'ils ont montré qu'ils ont fait de très bons résultats en qualification et sur différents circuits. Donc, je les vois vraiment réussir à accrocher la Q3. Après, il y a le facteur pilote, et je ne sais pas s'ils vont réussir à aller chercher des fois les petites différences, les petits dixièmes par-ci par-là, mais je les vois bien. Et en plus, je vois aussi les Williams, si par exemple ils sont à deux en termes de position, peut-être aussi jouer une stratégie, parce qu'il va y avoir aussi un train qui va se passer, donc faut qu'on voit où ils se positionnent, où qu'ils se positionnent dans la hiérarchie.
Ça marche. Bah ouais, non, mais c'est, moi les Williams, je le sens bien. Je le sens bien. Je trouve que, tu vois, il y a vraiment des changements structurels et du coup, quand même, ils ont un bon line-up. T'as l'air d'être un peu dubitatif sur. Mais je sais pas, moi, un Sainz dans Monaco, tu vois, je ferai attention quand même. Je l'ai déjà vu faire des choses. On sait que c'est un pilote qui peut pas être au top 12 mois par an. En revanche, chaque saison. Il a sa période qui peut aller de 3 semaines à 2-3 mois, où il est quand même très très fort. Donc peut-être que ça peut tomber une fois ici.
Oui, et puis c'est de mieux en mieux depuis le début de la saison.
En plus, c'est vrai que tu te rappelles, Jean-Luc, en tout début de saison, on s'inquiétait avant les 5 premiers Grands Prix des performances de Carlos. Il avait bien parlé sûr. De 5 Grands Prix, bon, il en a peut-être fallu plus 6 que 5, mais finalement aujourd'hui il a quand même montré une adaptation assez convaincante. Carlos qui est peut-être par son habitude, lui qui a beaucoup changé d'écurie, un gars qui sait s'adapter vraiment bien. Et quand on voit à l'inverse Lewis qui lui a fait carrière chez Mercedes et qui n'avait pas bougé depuis plus d'une décennie, bah c'est peut-être aussi ce qui explique la mise en route plus longue, non Jean-Luc?
Bien sûr. Bah, là aussi, la référence, c'est Albon. Hein. Albon, on disait aussi, enfin, le milieu de la Formule 1, donc moi aussi, évidemment, disait qu'il avait plus de talent qu'il n'avait pu en montrer jusque-là parce qu'il n'avait pas les monoplaces pour le prouver, pour le démontrer. Maintenant, il en a une, même si on commence à parler malheureusement chez Williams, c'est une question de budget, de freiner un peu les évolutions sur la monoplace de cette année pour évidemment, comme tout le monde, travailler majoritairement sur la 2026. Hein, James Vols l'avait dit dès le début. Mais bon, les résultats sont là. C'est vrai que ça donne faim, quoi. Hein. Ils sont là, comme vous l'avez dit. Ils sont là en qualif et donc ils sont évidemment là en course, ils mettent les deux monoplaces dans le top 10 depuis 3 Grands Prix. Hein. C'est vraiment. Et puis l'écart s'est réduit s'il existe encore entre Albon et Sainz. C'est là aussi. La référence de Sainz, comme celle d'Hamilton chez Ferrari, c'est Leclerc. La référence de Sainz, c'est Albon. Et Albon, il en tire le meilleur. Il est chez lui. Il a enfin la monoplace qui va bien. Ouais, ça peut être oui, un podium surprise pour une Williams. Hein. Selon les circonstances de course et les fameux deux arrêts imposés dont nous parlons, s'ils sont très bien qualifiés, allez, on va dire sur la troisième ligne, c'est possible, hein, troisième ligne, la deuxième, j'ai du mal un petit peu à y croire, mais pourquoi pas, ça peut tout changer. Et puis effectivement, on parlait de course d'équipe, alors c'est vrai qu'à Monaco, ça peut jouer encore un peu plus qu'ailleurs, parce qu'effectivement, il n'y a pas beaucoup de place sur la piste, mais bon, là, ça a couiné un peu, hein. C'est peut-être le seul, vous avez entendu les remarques de Sainz qui étaient un peu acerbes, bon, il y a eu un débriefing après, comme c'est vraiment un type clair, c'est un type formidable que Charles Leclerc a apprécié beaucoup, même quand il y avait des frictions en piste, ils ont parlé après, et hop, sorti de la réunion, c'était terminé, il n'en restait rien, là, je crois que c'est le cas aussi, hein, mais bon, écoute, c'est des problèmes de riches hein, quand on en est là.
C'est ça, c'est ça.
Quand une équipe doit discuter et calmer ses pilotes parce qu'ils sont trop fougueux, c'est super.
Alors, juste avant de faire l'habituel point sur les Français, Séraphin, est-ce qu'il y a un pilote, une écurie qu'on n'a pas énoncé? Tu dis, ah, j'ai un mot à dire là-dessus ou on passe direct à nos Français?
Là, sur Monaco, par exemple.
Ouais.
J'attends aussi de voir comment vont se passer les qualifications, par exemple, pour Aston Martin.
Ouais.
Parce que on a quand même un Fernando
Alonso. Pour faire un week-end très bizarre, d'ailleurs, le week-end dernier.
Voilà, qui ont eu un gain énorme, et on l'a vu en qualification, les deux en Q3. Mais j'attends de voir peut-être que Fernando Alonso, et là encore, Jean-Luc, il l'a dit, les pilotes d'expérience comme ça peuvent aller faire la différence. Et j'espère qu'ils seront quand même un peu présents, ils veulent chercher un top 10, ça serait bien pour Alonso, évidemment.
Et pour aller dans ton sens, Séraphin, Alonso, deux pôles, deux victoires, hein, quand même.
Ouais.
Alors c'est vrai que ça date, hein, ça remonte.
Ah oui, là pour le coup, ça date. Ouais.
Bah oui, ça date.
Séraphin, t'étais né Eh oui. Mais du coup, Séraphin nous dit qu'il aura un œil particulier sur Fernando. Fernando qui en tant que fou de pilotage doit être comme un poisson dans l'eau entre les rails de Monaco. Mais du coup, comme à chaque fois, on va évidemment attaquer le petit dossier préféré, le dossier des Français. Donc toujours les trois, c'est Pierre Gasly dans la Alpine, voiture compliquée, qui décide un peu à la manière de l'Aston Martin de ne pas dire quand elle a envie et quand elle n'a pas envie.
Et puis il est un peu tout seul en ce moment, Gasly.
Complètement tout seul, malheureusement. Mais ça, j'ai même pas envie d'en vouloir une seconde au deuxième pilote, puisque en fait, que ça soit Doohan ou Colapinto, le petit frère de Nicolas Paolorsi, ils sont presque aussi victimes de cette situation. Même si c'est le meilleur moment de leur vie pro, leur carrière, finalement, c'est tellement pas confort, quoi. Enfin, je veux dire, il n'y a rien de pire pour un jeune pilote que d'être un peu lancé comme ça. Après, les vieilles branches de la F1 nous diront « mon petit gars, c'est la F1, hein, c'est pas… » Donc, s'il n'est pas bon, il gicle et c'est comme ça que ça se passe. Mais c'est vrai que pour Alpine, c'est compliqué. On a à l'inverse Isaac Hadjar, qui lui aussi a un coéquipier qui est revenu après, et qui le domine clairement, et qui fait un début de saison très solide. Et puis, malheureusement pour lui, on a Esteban Ocon, qui est parti l'année dernière d'Alpine justement pour Haas, et qui se retrouve dans une voiture extrêmement compliquée. Et malheureusement, justement, pour lui, à l'inverse, c'est que c'est lui qui est en retrait, et clairement en retrait en ce début de saison par rapport à Oli Berman, son coéquipier. Toi, Séraphin, quel est ton point de vue un peu sur nos petits Français? T'as peut-être un favori, t'as peut-être ton petit chouchou?
On n'a pas trop parlé, par exemple, des rookies. C'est important pour eux d'aborder un week-end comme ça. Ils connaissent quand même, parce qu'ils roulent notamment en Formule 2 et en Formule 3, hein, sur ce circuit de Monaco.
Exactement.
Mais je pense, j'ai hâte de voir en tout cas Isaac Hadjar, comment il va se débrouiller. On se souvient qu'il avait gagné à l'époque en F3, et c'était derrière Helmut Marko qui l'avait vu quelques instants après. Je sais qu'il y a une histoire particulière pour lui, Isaac Hadjar, et il est plutôt à l'aise. Hier, l'année dernière, il avait quasiment la victoire qui était acquise, et je pense qu'il peut être parmi les rookies de cette année. Je pense qu'il peut faire la différence, et je pense qu'il peut faire.
Ce sera peut-être le rookie du week-end, si on peut l'appeler comme ça, quoi. Celui qui va mieux performer, oui, ce week-end parmi les rookies. Toi, Jean-Luc, au niveau des Français, quelles sont tes attentes, tes craintes?
Bah écoute, vous l'avez évoqué tous les deux, hein. Déjà, Pierre Gasly peut faire la différence, lui, sur le pilotage, puisque encore une fois, l'Alpine, comme il l'a fait à plusieurs reprises, hein, c'est-à-dire déjà se hisser en Q3, c'est évidemment le minimum pour espérer réaliser un bon résultat en course. Donc il faudrait viser, c'est ce qu'il fait, hein, évidemment, derrière les quatre gros, on va dire, c'est-à-dire être 8, 9, 10, ce serait déjà super. Espérons que ce sera le cas. Après, bah, pour Isaac, c'est un peu la même histoire, mais un tout petit cran en moins, ce qui n'est pas du tout péjoratif, bah, vu effectivement le fait que c'est un rookie, même s'il connaît bien le circuit, mais pas avec ce type de monoplace. Donc là, bah, il est pas mal, hein, 13e temps, il est aux portes du top 10. Évidemment, l'exploit, ce serait de se hisser dans la Q3 et dans le top 10. En qualif, et donc après on verrait en course. Bon, s'il est à sa place, et sa place c'est entre 11 et 13, hein, en gros, on l'a vu depuis le début de la saison, c'est déjà très très bien, parce qu'effectivement ça démontre qu'il se sent à l'aise dans l'écurie, dans la monoplace. Alors, un mot sur son équipier, il est cramé, le pauvre Lawson, je trouve il ressemble à rien déjà. Non mais tu sais, le body language, il est cramé, Lawson il est cramé, c'est l'ombre de Lawson là. Franchement, ils l'ont ouais, prisé en 12 chez Red Bull, et là, bah, il fait le boulot, mais il n'y est pas. Ça se ouais, voit, il n'y est pas. Voilà.
Mais, bon, oui, donc, mais comment lui en vouloir tellement,
ah, mais on ne peut pas lui en vouloir. C'était... C'est un constat. Alors, ouais, est-ce qu'il va arriver à rassembler les morceaux? Pourquoi pas? Peut-être là, à Monaco. Et là, une nouvelle fois, je souhaite me tromper. Hein, j'ai absolument rien contre lui. Mais là, je trouve qu'il est brisé. Quoi. Il est brisé en 1000 morceaux. Donc, il n'existe pas. Et puis, le troisième, bah, c'est Esteban Ocon. Alors, le problème d'Esteban, lui, enfin, et c'est pas le seul, hein, c'est que bah, l'As ne performe pas vraiment en qualif. Hein. Après, en course, ça va beaucoup mieux. Seulement, malheureusement, à Monaco, ce n'est pas le sujet. À Monaco, il faut être rapide en qualif. Alors effectivement, là, pas de miracle à attendre, je crois ils sont serrés tous les deux, hein. ils sont ensemble, ils sont Berman 15 et Ocon 16 pour le moment. Bah, s'ils accèdent à la Q2, on va dire que ce sera leur Graal, hein, pour Monaco. Donc je pense pas, à moins de circonstances de course, à moins d'une petite ondée, vous me voyez venir. Et on dit que dimanche il pourrait y avoir une petite ondée, alors et ça, oui, moi ah, je l'appelle de mes voeux, comme à chaque fois, je fais la danse de la pluie.
C'est ça, on va tous faire la danse de la pluie pendant 24 heures pour espérer une bonne averse à 15 heures, parce qu'en F1 on a souvent remarqué aussi que même les dimanches pluvieux, parfois elles trouvent le moyen d'arriver avant ou après le Grand Prix, mais pendant, elle nous laisse tranquille. Mais tombe la pluie, tombe.
Mais voilà. Tu sais, ça sort au-dessus des montagnes, ça arrive d'un seul coup. Là, voilà. Tu sais, on les voit pas arriver et hop
et
là.
Hop là d'un coup. Et d'ailleurs, Jean-Luc, pour revenir sur Hamilton et le circuit de Monaco, c'est marrant parce que c'est vrai qu'il a pas non plus un palmarès incroyable comme tu le disais si bien, mais il a quand même le record de la pole position en 2019, en 1-10-166, ainsi que le record du tour en course en 2021, 1-12-909. Donc, il a quand même su être le plus rapide sur circuit, bien qu'il n'ait pas... c'est vrai, moi aussi, c'est pas forcément le pilote auquel je pense tout de suite quand on va à Monaco, mais quand même pas mal, ce qui n'est pas surprenant pour un septuple champion voilà, du monde.
Non, mais j'ai bien relativisé, hein. J'ai dit qu'encore une fois, c'était un palmarès formidable,
bien sûr, bien sûr.
Pour tous les pilotes, et pour lui, 7 fois champion du monde, pareil, 105-104 et tout, bon,
ok, donc
c'est pas, disons, son circuit de prédilection, voilà, ouais, c'est tout simplement ça. Bon, maintenant, il peut réaliser l'exploit, il l'a fait, encore une fois, bah, décrocher la victoire en sprint en Chine, c'était un exploit, évidemment. Bon, il avait signé le meilleur temps, il est resté devant, bah, génial, c'était l'embellie de ce début de saison, pour lui comme pour Ferrari, hein, pour le moment. Bon, on va voir ce qu'il en est. Encore une fois, le c'est le cas de le dire, le facteur humain, le facteur pilote est tellement important à Monaco que tu sais, bah là aussi, il se met dans sa bulle, il sort un tour de folie et il se met, pourquoi pas, sur la première ligne pour pas rêver d'une pole ou sur la deuxième au maximum. Après, tout peut arriver à Monaco.
Bah oui, comme on l'a dit tout à l'heure, il peut aussi y avoir des concurrents qui oublient les pneus ou des choses comme ça.
Et voilà, qui reste bloqué aussi.
Ouais, voilà, c'est ça. Elle a un écrou qui reste bloqué 59 secondes. Enfin, on a tout vu, hein, donc on est...
Ou tu sais, le truc, il est 10-11e. Seulement, il y a un tel crash au début à Sainte-Dévote qu'il y en a 5 ou 6 dehors. Voilà, c'est terminé. Et puis, on repasse par les stands, on change les pneus, on repart. Il est 2. Celui devant casse ou tape. Et voilà. C'est l'histoire de Monaco.
Manière un peu d'Esteban, sa victoire en Hongrie, où le premier virage il y a un carton et lui il passe à la corde. Bah,
Roussel, on est obligé, pardonne-moi de t'interrompre, et d'évoquer Olivier Panis. Hein,
mais oui,
même,
ah bah oui, ah bah oui, oui, je suis
bête. Commenté cette course en direct
loin,
à l'époque.
Mais,
hein,
mais évidemment,
ah bah oui,
dans l'épingle du Love d'ailleurs, où il double tout le monde comme un bourrin.
Bah attends, il part 14, mais comme il le dit aujourd'hui en rigolant, Olivier, avec ce qu'il a fait comme dépassement, mais aujourd'hui il se prend 3 heures de pénalité.
Ah bah il perd sa super licence.
On l'exclut à vie de la Formule 1.
Ah bah,
non,
clairement.
Mais attends. Ah bah, c'était une époque où c'était des courses d'hommes, là aussi. Bah oui, bah, c'était comme ça. Tu voulais passer, fallait y aller. Hein. Bon, bah, écoute, bon, on a changé, mais c'est comme ça.
Bon, les amis, évidemment, pour finir, puisqu'on a à peu près fait le tour et que maintenant, il va être grand temps d'aller se coller devant la télé pour les voir tourner sur le circuit de la Principauté, je vais vous demander, vous le savez, c'est vos pronostics. Qu'est-ce qui va se passer ce week-end ? Je veux de la prise de position, là. Je veux pas du « il peut tout se passer », c'est Raphaël.
Alors, je vais mettre Max Verstappen, pour moi, je le vois favori sur ce week-end.
Donc, pole victoire ?
Pole victoire.
Allez, ça me plaît. Ça, voilà. C'est de la prise de position.
Je vais mettre Oscar Piastri, deuxième.
Ouais.
Voilà. Et puis, je vais prendre un risque. Je vais mettre Charles Leclerc, monté sur le podium, troisième place pour Monaco.
Pas mal. Et ton, on va dire, l'échec du week-end, ça serait pour qui ?
L'échec du week-end, je sais pas,
je te laisse réfléchir.
Stroll qui a mal démarré le week-end, donc ouais. Mais bon, ça veut rien dire. Ouais.
Jean-Luc, toi, c'est pas tes envies d'ailleurs, c'est tes pronostics, c'est ce qui va se passer. Madame Alors, Irma, Jean-Luc Irma.
Non, bah mon pronostic, il l'a dit, c'est la fin, puis on l'a évoqué. Je pense que Verstappen va encore sortir un tour de folie.
Ok.
Vraiment. Donc je pense qu'il va faire la pole, et je pense qu'à partir de là, tout est ouvert. Hein. Après, bon, évidemment, il y a une course derrière, mais à partir de là, il peut l'emporter. Et puis, pour la même raison, puis moi, j'essaie toujours de privilégier ce facteur humain qui peut être dans le bon comme dans le mauvais sens. Charles, moi, je vois Charles sur le podium, voilà. Même s'il part de loin, parce qu'il va, pareil, il va découpiller, il va sortir un tour de folie. Il va être au moins sur la deuxième ligne de la grille de départ. Et puis après, comment ne pas évoquer une McLaren ? Et vous me voyez venir, celle de Piastri, évidemment. Donc Piastri sera là, peut-être deux, probablement, ou trois, en switchant avec Charles. Enfin bon, voilà. En tout cas, ça va être, et je rappelle, un record extraordinaire de la part de Piastri, 33 Grands Prix consécutifs dans les points. Ouais. Il a fait tous les tours depuis fin 2023. C'est ahurissant.
Ouais,
donc, il est là. C'est incroyable quand on rappelle le peu d'expérience qu'il a, une grosse cinquantaine de Grands Prix au compteur. Hein. Mmh. Non, ce type est fabuleux. Ce type est de la graine de champion du monde. Voilà, je l'ai déjà dit, je le redis. Hein. Si ce n'est pas cette année, ce sera l'année d'après. Hein, mais...
ouais. Oui, on sent que lui, s'il en rate un, ça sera pas fini. Et contrairement, sûrement peut-être à son coéquipier. D'ailleurs, je me faisais la remarque, on est sur le premier épisode de l'année où on n'a pas prononcé le mot Lando Norris. Je le fais maintenant, quand même.
Voilà, ça y est, c'est fait, merci.
Mais je trouve que ça montre aussi que c'est clair que maintenant, quand on se met autour d'une table pour parler F1, c'est vrai que Norris, on préfère parler de Piastri aujourd'hui. Quoi. Il y a plus de, on voit plus de choses, on s'attend aussi à plus de choses. Même si moi, je vous l'ai déjà dit, je pense que Lando peut se réveiller et reste un très bon pilote.
Bien sûr, il est quand même à 133 points. Hein, on le rappelle,
exactement, il n'est pas du tout largué ou quoi, et que peut-être que l'analyse en fin de saison sera peut-être pas Lando, il n'a pas fait une très bonne saison, mais peut-être Piastri en a fait vraiment une très bonne, et du coup c'est comme ça que ça s'équilibre un peu. En tout cas, Jean-Luc, Séraphin, les amis, je vous remercie pour ce warm-up de Monaco, c'est super. On va se retrouver dès lundi avec le grand, le magnifique Nicolas Paolorsi, qui sera rentré de Cardiff, je ne sais pas dans quel état.
Dans
parce
quel
que
état va-t-il être dans
si,
quel
l'UBB, état si l'UBB gagne, je ne veux pas savoir dans quel état on va le retrouver, notre Nico National. En tout cas, n'oubliez pas, le podcast, c'est sur toutes les plateformes de contenu, les plateformes forme de podcast comme disent les jeunes. C'est aussi une page Insta RMC Formule 1. Allez vous abonner, allez follow, et n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, à dire ce que vous en pensez, et puis évidemment à mettre des notes, et je vous interdis de mettre autre chose que 5 étoiles. Bon week-end à tous, c'est le meilleur samedi de l'année, profitez-en, n'est pas Racing qui veut.
Allez, salut.
Le paddock RMC.